Parlons d'Europe, Juliette Rangeval.
I am marching because no one voted for this Brexit mess.
Because I want my voice to be heard.
Because I believe in an open society.
And accepting Britain.
This is my home.
Bonjour, des concessions de dernière minute obtenues à Bruxelles, un vote crucial au Parlement britannique, une journée charnière dans cette saga du Brexit. À Londres, certains ne veulent pas entendre parler de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils réclament un second référendum. Et pour eux, en particulier des jeunes, c'est sans doute la dernière occasion de faire entendre leur voix. Marie Billon les a rencontrés.
Les cris de ralliement de ceux qui sont en faveur d'un second référendum. Ici, ce sont les jeunes du groupe de pression pro-européen OFOC, Our Future, Our Choice, Notre Futur, Notre Choix, qui se sont rassemblés près du Parlement. Ils posent tous devant un bus bleu avec inscrit dessus « 77% d'entre nous ne veulent pas du Brexit », faisant référence aux jeunes de 18 à 24 ans qui ont voté pour rester dans l'UE en 2016. Ensuite, le groupe d'une bonne cinquantaine de jeunes gens venus des quatre coins du Royaume-Uni se dirige vers le Parlement.
On est là pour parler à nos députés, pour dire que vu que le Parlement est en galère à cause du Brexit, il faut un nouveau sens. Et ce nouveau sens, c'est le deuxième référendum sur le traité lui-même. Parce que en 2016, on a rejeté notre relation actuelle avec les autres pays de l'UE. Et donc, c'est juste logique que vu que tout le monde n'est pas d'accord avec le nouveau traité, une nouvelle relation qu'on a négociée, que le peuple a le choix entre les deux.
Femi est l'un des cofondateurs d'OFOC. Il a 28 ans, mais il se souvient encore de son année Erasmus passée à Brest. Il en a gardé un très bon niveau de français et un amour pour la liberté de mouvement. Molly, elle, a 18 ans. Elle vit en Irlande du Nord. Elle aimerait aussi profiter de cette option d'aller étudier à l'étranger.
J'étais trop jeune pour voter lors du référendum en 2016 et j'ai l'impression que c'est mon avenir qui est en danger. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont voté pour le Brexit. Ça m'attriste beaucoup parce que 3 ans plus tard, on en voit les effets. En tant qu'étudiant, notre horizon est plus limité. Nous ne pourrons pas aller librement vivre, étudier et travailler ailleurs. C'est très important que nous, les jeunes, soyons traités avec plus de respect au sein de notre démocratie.
Will, lui, a pu voter en 2016, sauf qu'il a voté Brexit et a convaincu en plus plusieurs membres de sa famille de faire de même. Aujourd'hui, il essaie de les persuader de faire le contraire.
Je suis dégoûté par tout ça. On m'avait promis qu'on pourrait faire du commerce avec la terre entière. À la place, on est en train d'ériger des frontières entre nous et nos actuels partenaires commerciaux. On m'avait promis un service de santé de meilleure qualité, mais un nombre record de médecins et d'infirmiers ont quitté le pays depuis le référendum. Ce n'est pas pour ça que j'ai voté. On m'avait dit qu'on aurait plus de contrôle sur l'argent public, et là on va devoir donner des milliards à l'Europe, pour rien. Alors quand on voit le fossé qu'il y a entre ce qu'on nous avait promis et la réalité, je trouve ça tout à fait justifié et démocratique de nous refaire voter.
Will démarre en direction du Parlement. Il ne va pas être tendre envers les députés qu'il espère rencontrer.
Je ne pense pas que la solution pour sortir de ce fatras qu'est le Brexit sera trouvée au Parlement. Il a montré à de nombreuses reprises qu'il n'est pas capable de régler cette crise. Alors demandons aux gens s'ils pensent que le deal négocié par Theresa May est vraiment bon.
Will fait partie de ceux qui sont contents que Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste, se soit décidé à soutenir un second référendum, même si lui et Femi vont dire aux députés Labour que ce n'est pas trop tôt.
Il est nécessaire pour nous que Jeremy Corbyn soutienne un deuxième référendum parce que les jeunes qui l'ont mis en pouvoir dans le parti sont pas du tout d'accord avec le Brexit. Donc soutenir le Brexit, ce serait une trahison.
D'autres comme Léo sont moins convaincus de l'importance du soutien de Jeremy Corbyn.
Je n'ai pas une très bonne opinion de Jeremy Corbyn. Même si c'est bien qu'il se soit déclaré en faveur d'un référendum, on ne peut pas encore lui faire confiance. Je pense qu'il va quand même essayer d'imposer une version corbyniste et trotskiste du Brexit, donc je ne veux pas me réjouir trop vite.
Léo n'a peut-être pas tort. Depuis quelques jours, le Parti travailliste semble se diriger vers un soutien pour un second référendum uniquement sur le projet d'accord négocié par Theresa May. Si jamais il y a un retournement de situation et que les travaillistes se retrouvent au pouvoir et donc en position de négocier leur propre accord et leur propre vision du Brexit avec le maintien d'une union douanière, il ne proposera pas de second référendum. Âgé de 17 ans seulement, Léo ne pourrait pas voter s'il y avait un vote populaire dans les prochains mois, mais Mike Galsworthy a de quoi le rassurer.
Le
Le porte-parole de People's Vote, la campagne pour un second référendum, discute avec quelques militants en chemin vers ses bureaux à quelques dizaines de mètres du Parlement. Et selon lui, on ne saura pas tout de suite si les Britanniques sont rappelés aux urnes.
Est-ce que cette semaine sera celle de l'annonce ou non d'un deuxième référendum ? Non, je ne pense pas. Il va falloir attendre un peu. Un report de la date butoir va être certainement demandé. C'est dans cette période que se fera l'annonce. À un moment, il va falloir revoter l'accord de Theresa May. Il y a cet amendement, Kyle Wilson, qui va être proposé comme une trêve et qui dit « On vote pour cet accord à condition que les Britanniques puissent donner leur avis dessus après. »
L'amendement Kyle Wilson, qui pourrait changer de nom d'ici là, serait selon Mike le compromis idéal, car il permettrait aux conservateurs de voter en faveur de l'accord négocié par la Première ministre.
It is clear that the government's approach had to change, and it has.
Cette vidéo du collectif anti-Brexit InFacts annonce la grande marche du 23 mars à Londres intitulée « Put it to the people », demandée au peuple. Elle espère rassembler plus de 700 000 personnes, le record de la marche anti-Brexit d'octobre dernier. Un train entier et des dizaines de bus ont été affrétés pour faire venir les Britanniques de tout le pays, selon Mike.
Quand on a créé notre campagne, on nous considérait comme des fous. Maintenant, les médias parlent de nous. Nous sommes reconnus par les parlementaires et l'opinion a aussi changé d'avis. De plus en plus de gens veulent un vote populaire.
D'après les derniers sondages de l'Institut YouGov, 54% des personnes interrogées seraient en faveur d'un second référendum plutôt qu'une sortie sans accord, un no deal. Mais quand on leur demande s'ils préfèrent l'accord de Theresa May ou retourner aux urnes, ils ne sont plus que 51%.
What is it that you want to do?
Well, we want to be free to do what we want to do.
No funny business with these Protestant lads. I don't want anybody landing back here pregnant.
Not very likely in my case.
I wouldn't rule it out, son.
Dans la saga du Brexit, la question irlandaise pèse lourd, avec une crainte in fine, voir voler en éclats les accords du vendredi saint qui ont mis fin à des décennies de violence en Irlande du Nord. Les troubles, toile de fond d'une série nord-irlandaise qui cartonne en ce moment sur la chaîne britannique Channel 4. Derry Girl, une sitcom, et devant l'écran, Julien Lagache, notre correspondant qui suit les aventures pleines d'humour de cette bande de filles dans les années 90.
Je ne sais pas pour vous, mais cette alerte à la bombe me contrarie. J'ai rendez-vous au solarium à midi pour une séance de 15 minutes. Je ne pourrai jamais être à l'heure au train où ça va ruiner mon bronzage. Derry Girls, ou comment raconter les petits inconvénients d'une grande page de l'histoire. La série s'articule autour des vies presque banales de quatre lycéennes et de leurs familles dans leur quartier catholique à Derry, où le quotidien est autant marqué par les patrouilles militaires et les inspections de véhicules par des soldats britanniques que par les lamentations sur les difficultés de circuler dans une ville criblée de checkpoints ou simplement par de longs débats sur le nombre de portions de frites qu'il faudra commander pour le dîner de famille du vendredi soir. Ici, c'est la vie à hauteur des personnages qui est au premier plan et fait rire malgré un décor de guerre qui, comme les journaux télévisés d'époque, ne constitue qu'un bruit de fond. Une recette qui plaît puisque Derry Girls s'est imposée comme l'une des sitcoms du moment au Royaume-Uni après avoir rassemblé en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs lors des 6 épisodes de la première saison diffusée l'an dernier. Un succès populaire dû à l'authenticité insufflée par la scénariste Lisa McGee, qui a largement puisé dans ses propres souvenirs d'adolescente à Derry et ainsi conquis un large public qui se retrouve dans certaines scènes, comme celle où de jeunes catholiques et protestants tentent en vain de trouver des points communs alors que les idées fusent pour pointer leurs différences.
Les catholiques regardent la télé irlandaise. Les protestants aiment que tout soit bien propre. Les protestants sont plus grands. Les catholiques ont plus de taches de rousseur. Les protestants détestent Abba.
Okay, thank you.
La séquence est même devenue culte avant la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison. Les clichés tournés en dérision font mouche, comme cette affirmation. Les protestants mettent leur grille-pain au placard. La citation qui figure à présent sur des t-shirts n'en finit plus de faire rire sur les réseaux sociaux, où les fans de la série rejouent à l'envi leurs moments favoris et discutent sans fin des scènes qui font écho à leurs propres souvenirs de jeunesse. Preuve qu'au-delà d'un public, Derry Girls semble avoir fédéré toute une communauté, à tel point que les visages des protagonistes figurent désormais sur une grande fresque murale de la ville nord-irlandaise, un honneur traditionnellement réservé aux combattants et aux personnalités qui ont marqué l'histoire, notamment celle de la période des troubles.
Et Derry Girls, c'est sur Channel 4.
Hein.
En Autriche, l'apprentissage est une évidence. Résultat, moins de 9% des jeunes sont au chômage contre 15% pour la moyenne européenne. Reportage de Céline Béal au sud de Vienne.
L'usine de piano Bösendorfer au sud de Vienne compte 5 jeunes en apprentissage pour environ 120 employés. Leur formation dure au minimum 2 ans et demi, pendant lesquels ils apprennent à construire les instruments de A à Z, à les accorder et les régler. Et puis, cours de piano obligatoire. Ce n'est pas du tout un problème pour Florentine Müller. À 24 ans, elle est un peu plus âgée que la moyenne des apprentis qui peuvent choisir cette voie dès 15 ans. Son parcours est moins linéaire, elle est allée à l'université, elle a obtenu une licence de musicologie, puis elle s'est réorientée.
Dans la branche culturelle, c'est difficile de trouver un emploi. Je me suis dit qu'en apprenant un métier artisanal, on avait quelque chose de sûr en poche. Et puis, je ne suis pas le genre de personne qui peut rester assise 24 heures sur 24 à un bureau. Ici, je suis toujours en mouvement, parfois assise, parfois debout, quelquefois je fais un travail très dur, parfois moins.
Sauf en cas de faute grave, Florentine est certaine d'être embauchée par Bösendorfer à la fin de sa formation. En attendant, elle ne passe qu'un quart de son temps en formation théorique dans une école professionnelle à Vienne. Le reste du temps, elle est formée par ses collègues ici même, à l'usine. Pour l'entreprise, cela représente évidemment un coût important, en temps de travail et en ressources. Mais c'est non seulement rentable, mais aussi indispensable. Le directeur technique, Thomas Bruckal.
Surtout dans un domaine comme le nôtre, où nous travaillons de manière traditionnelle, avec l'amour de l'artisanat et du détail, je crois que c'est absolument nécessaire que nous formions des jeunes. Nous en avons besoin pour la continuation de notre entreprise.
Thomas Bruckal est d'ailleurs lui-même un ancien apprenti. Mais il voit bien que ce type de formation n'a pas forcément une bonne réputation auprès des jeunes.
Parmi mes amis qui sont tous allés à l'université, il y a plutôt l'idée que ce serait s'abaisser que de faire un apprentissage. Tout le monde m'a demandé pourquoi je faisais ça, surtout moi qui ai fait des études avant. Mais quand c'est un métier intéressant auquel on choisit de se former, les gens voient ça de manière différente.
Mais tout le monde n'apprend pas à devenir artisan spécialisé dans la fabrication de pianos. À 50 km de là, au centre de Vienne, la grande école professionnelle de la rue Apollo Gasseux voit passer de nombreux apprentis. Ils deviendront techniciens du génie mécanique, en électronique des communications ou en installation climatisation, par exemple. Dans un grand atelier équipé d'une douzaine de tourneuses fraiseuses, un professeur en bleu de travail montre à ses élèves comment usiner manuellement de petites pièces en métal. Marcel Aigner a 18 ans. Lui est arrivé là après un échec scolaire.
J'ai suivi 2 ans de cours dans un lycée technique. On n'y faisait que de la théorie. Ça n'a jamais vraiment été mon truc de devoir apprendre mes leçons le soir à la maison. La pratique, ça me plaît bien plus.
Même si le système école professionnelle entreprise est ouvert à tous les jeunes dès 15 ans, on constate que beaucoup des élèves de l'Apollo Gasseux sont plus âgés. L'apprentissage était pour eux un second choix. Le directeur des lieux, Andreas Kranzelmeier, voit pourtant les choses changer.
Cette image de l'apprentissage change. Le public commence à comprendre que l'artisanat est un gagne-pain lucratif. Les artisans qui ont appris un métier dans le système d'apprentissage gagnent davantage et ont de meilleures perspectives d'avancement que ceux qui essaient d'entrer dans les entreprises directement après l'école. C'est pour ça que l'image de l'apprentissage s'améliore.
Un jeune sur 3 actuellement en apprentissage. C'est un chiffre impressionnant, mais qui en cache un autre. En réalité, les effectifs ont longtemps été en baisse. Dans les années 80, c'était encore presque un Autrichien sur 2 qui faisait ce choix. Néanmoins, la tendance repart cette année légèrement à la hausse. C'est grâce à la volonté des pouvoirs publics et des entreprises, selon l'inspecteur des écoles professionnelles de Vienne. Pour lui, l'apprentissage offre exactement ce dont l'Autriche a besoin, c'est-à-dire une main-d'œuvre spécialisée. Oliver Schleicher.
Besonders wichtig
C'est très important parce que nous sommes un petit pays qui ne peut pas faire de production de masse. Nous sommes spécialisés dans des domaines précis de l'économie ou de la technique. Les spécialistes sont très, très importants pour une petite économie.
Tant l'inspecteur que le directeur sont d'ailleurs tous les deux passés eux-mêmes par l'apprentissage dans leur jeunesse. Ils ont ensuite enchaîné sur une formation complémentaire, toujours en alternance, pour devenir professeur. La preuve que l'alternance peut mener à tout, y compris aux études supérieures.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Une fois n'est pas coutume, mardi, on parle musique avec Vincent Théval, avec une chanteuse qui nous vient de Suisse, Flesh Love, c'est le nom de son nouveau projet.
Et oui, il y a 28 ans, Amina Kadeli a déjà connu plusieurs vies, et cela donne toute son épaisseur et sa singularité à son nouveau projet, Flesh Love. C'est sous ce nom qu'elle s'exprime aujourd'hui, après avoir été pendant 5 ans la plume et la voix du groupe suisse Cadet Bostani, petite machine à tube qu'elle avait intégrée en 2011. Interrompant ainsi des études en ethnologie et sciences des religions entamées à l'université de Neuchâtel. Et si la Suissesse d'origine algérienne affirme qu'elle n'était pas faite pour les études, elle a en revanche gardé tout son intérêt pour les spécialisations qu'elle avait choisies. Études du genre et du post-colonialisme, thématique aujourd'hui au cœur de ses combats quotidiens, mais aussi des chansons de Flesh Love très personnelles, chantées en anglais ou en espagnol et partagées entre R&B ultra-moderne et moments plus calmes.
Cuando la pena me envuelve con sus brazos esponjosos, intento recordar que cada día me elijo de nuevo. Ah, ah, ah. Oh, ese dolor es un sobresalto del alba que recuerda de dónde viene, de dónde viene. Ah.
Los Nomades del Sol, Flesh Love, merci Vincent Théval. Et Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. On se retrouve demain à la même heure, ici, et vous nous réécoutez, vous nous suivez sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux.
Chanson.